Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute Le Monde Changer. Il est 8h.
Renseignez-vous sur les cyberattaques russes. Tous les pays du monde sont menacés par ce type de cyberattaque, y compris les infrastructures d'éducation, évidemment. Et c'est en effet une partie des choses qui se sont passées hier.
Jean-Michel Blanquer avait été bousculé face au sénateur mercredi. Les bugs ont continué. Bilan d'une semaine chaotique pour l'école à la maison. Et nous passons un coup de fil au syndicat des proviseurs qui redoutent déjà la rentrée du 26 avril. Dans ce journal, une délégation française jugée trop petite. L'Algérie se vexe et fait annuler la visite officielle de Jean Castex. Et puis, pas aussi courtois dans la vie que dans ses vers. Nous verrons qui était vraiment Charles Baudelaire. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, le fondateur du Puy du Fou, ancien ministre, écrivain, Philippe de Villiers veut secouer les consciences à travers son nouvel essai Choc le jour d'après. C'est une exclusivité, il est sur Europe 1, rendez-vous à 8h15.
Juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour et bon courage. C'est la dernière journée de cours à distance avant deux semaines de vacances d'avril pour tous les élèves de France. En même temps, ils sont 12 millions et cette cohorte a quelque peu submergé les plateformes et les serveurs de l'éducation nationale. On a parlé de cyberattaque, on va y revenir. Mais un an après le premier confinement, eh bien les élèves, les parents et les profs ont surtout l'impression que l'école à la maison n'a pas retenu ses leçons.
Bonjour Bruno Bobkiewicz.
Bonjour.
Vous êtes proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes et secrétaire national du SNPDEN UNSA. Ce matin, vous dressez un bilan catastrophique de la semaine écoulée.
Oui, c'est bien ça. Quasiment rien n'a fonctionné depuis mardi.
C'est-à-dire que ça a été impossible pour vous de travailler pour les élèves, pour les parents. Concrètement, rien n'était faisable, fonctionnel.
Ou très peu de choses. On a des services très dégradés concernant les environnements numériques de travail qui sont mis en place par les collectivités. On a l'outil CNED qui est quasiment indisponible depuis 3 jours. Et on a même les outils privés qui sont naturellement et habituellement disponibles qui ont dysfonctionné sur des courtes périodes depuis le début de semaine.
Vous parlez même d'un accident industriel majeur.
Eh bien oui, parce que globalement, les enseignants et les élèves sont en incapacité de se joindre, de faire la classe à la maison, comme on utilise ce terme régulièrement, et on est en grande difficulté depuis mardi.
Alors Bruno Bobkiewicz, vous restez bien avec nous, on l'entendait, hein, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a évoqué des cyberattaques russes, des attaques par déni de service, comme disent les spécialistes. Alors Pierre Herbulot va nous expliquer de quoi il s'agit.
Une opération escargot sur Internet. C'est le principe de ce qu'on appelle le déni de service. L'internaute malveillant envoie, via un logiciel, une énorme quantité d'informations au site visé jusqu'à ce qu'il craque. Une attaque courante. Pourtant, Nicolas Arpagian, auteur du livre La cybersécurité, doute que le CNED en ait été victime.
S'il y avait une cyberattaque par déni de service, elle ne correspond pas aux caractéristiques habituelles qui sont soit la démarche crapuleuse avec revendication financière, soit la démarche idéologique avec la mise en avant d'un discours. Ça ne ressemble pas du tout à un cas classique d'attaque en déni de service.
Pour lui, ce serait tout simplement un problème technique de sous-dimensionnement des serveurs. Sauf qu'il pourrait exister une autre motivation à cette potentielle cyberattaque, la procrastination. Jérôme Billois, du cabinet Wavestone.
On pourrait imaginer que des adolescents ou des jeunes adultes qui sont souvent des férus de jeux vidéo et qui ont l'habitude de pratiquer ce type d'attaque, qui est souvent fait dans une logique de jeu, aient pu utiliser leur savoir-faire contre le site qui finalement leur demandait d'être connecté pour se faire l'école à la maison.
Une mauvaise blague qui pourrait coûter très cher, 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende.
Alors Bruno Bobkiewicz est toujours avec nous en direct sur Europe 1. Est-ce qu'on peut mettre à profit là les 2 semaines de vacances qui commencent ce soir pour tout régler avant que les collégiens et les lycéens reprennent à nouveau à distance le 26 avril?
Ah bah c'est aux responsables qu'il faut le demander. C'est-à-dire, nous, c'est évidemment notre demande. On a 2 semaines devant nous qui se présentent et l'idée, c'est qu'on puisse, le 26 avril, être en capacité de permettre aux élèves et aux enseignants de travailler dans les meilleures conditions. C'est-à-dire ne pas reproduire ce qui s'est passé cette semaine, il y a 2 semaines, pour régler les difficultés techniques. Ça ressemble quand même, malgré tout, à des sous-dimensionnements de serveurs.
Oui, oui, pardonnez-moi. Effectivement, c'est aux responsables qu'il faut le demander, mais on vous sent sceptique, Bruno Bobkiewicz.
Disons que si on n'a pas été capable de le faire pendant un an, est-ce qu'on va être capable de le faire pendant deux semaines? Vu qu'on nous garantissait que tout allait marcher, on peut quand même aujourd'hui être inquiet hein, sur la façon dont les choses vont pouvoir évoluer pendant deux semaines. En tout cas, nous, on le demande de façon extrêmement insistante parce qu'on est en incapacité de permettre ce travail à distance dans de bonnes conditions.
Bruno Bobkiewicz, merci beaucoup du SNPDEN UNSA, proviseur, le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale.
La diplomatie à la une avec ce rapprochement que tente la France ces derniers mois avec l'Algérie. Des gestes symboliques forts ont été faits sur l'histoire commune entre les deux pays, mais il y a comme un coup de froid. Jean Castex renonce à son voyage officiel prévu ce week-end. Jean-Rémy Bodo, officiellement en raison de la crise sanitaire.
Oui, ce déplacement aurait dû être l'un des symboles du réchauffement des relations entre la France et l'Algérie, mais c'était sans compter sur le Covid. En temps normal, Paris et Alger se retrouvent régulièrement pour ce qu'on appelle un comité intergouvernemental de haut niveau, une sorte de réunion entre ministres pour discuter diplomatie, sécurité, contrat ou encore éducation. La dernière fois, c'était en 2017 à Paris, et l'Algérie avait alors dépêché 8 ministres, et c'est ce niveau que le pays attendait en retour ce week-end. Impossible à cause du Covid, a répondu Matignon, qui a proposé de venir avec un format plus restreint, quelques ministres importants, dont Bruno Le Maire et Jean-Yves Le Drian. Une délégation jugée insuffisante par les autorités algériennes, d'où cette annulation. Ça aurait été un autre pays, ça aurait été la même chose, plaide l'entourage de Jean Castex. À Paris, on refuse de laisser entendre que ce report illustre d'éventuelles difficultés avec Alger. Paris qui s'est lancé dans un travail de mémoire sur la guerre d'Algérie, qui a ouvert récemment ses archives. Mais manifestement, le nombre de ministres présents lors d'un déplacement conditionne encore beaucoup le dialogue entre les deux pays.
Jean-Rémy Bodo du service politique d'Europe 1.
La diplomatie encore avec ce qui a été appelé le Sofagate.
Sofa pour divan ou sofa tout simplement canapé. Cette scène hallucinante que nous décrivait hier Vincent Hervouet, les deux leaders de l'Union européenne reçus par le président turc Erdogan. Mais il n'y avait qu'un seul fauteuil pour Charles Michel et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, obligée à ce moment-là de faire bonne figure et de s'asseoir sur un divan. Un sofa en retrait, donc. Le président du Conseil, lui, a été critiqué ensuite pour ne pas avoir protesté. Hier, Charles Michel s'est expliqué.
Je regrette profondément l'image qui a été donnée et l'impression qui a été créée à cause de ces images et à cause de cette situation d'une forme de dédain ou de mépris pour la présidente de la Commission européenne, mais également pour les femmes en général. Je regrette profondément cette situation. J'ai rebobiné 150 fois dans ma tête depuis lors et je voudrais tellement pouvoir rebobiner, revenir en arrière. Et si je pouvais le faire, j'aurais veillé à ce qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté et que l'on ait effectivement une situation qui aurait dû être une situation tout à fait normale, c'est-à-dire avec une configuration de siège qui montre le respect pour chacune et pour chacun. Avec distance après, on peut dire qu'il aurait dû faire ceci ou il aurait dû faire cela. J'avais la conviction que cela provoquerait un incident bien plus grave qui détruirait la capacité qui est pourtant très fragile et qui était très fragile à ce moment-là d'avoir enfin une relation un peu moins négative avec la Turquie.
Voilà, difficile de savoir comment réagir hein, dans l'instant. Charles Michel qui a donc rebobiné cette séquence avec quelques regrets, on l'entend.
Vous restez avec nous dans un instant, 200 ans exactement après sa naissance, on va parler de Charles Baudelaire, un immense poète mais misogyne et désagréable. Il en était conscient d'ailleurs.
Et puis eux sont conscients d'avoir enfreint les règles sanitaires. Deux prêtres parisiens ont passé hier la journée en garde à vue.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h09 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Un commissariat en guise de confessionnal. Garde à vue hier pour le curé et le vicaire de Sainte-Eugène-Sainte-Cécile à Paris, où a eu lieu cette messe de Pâques sans masque ni distanciation. En plus d'une procédure canonique, Marion Dubreuil, c'est donc la justice civile qui enquête sur les conditions de cette célébration.
Oui, face aux policiers, le prêtre et son vicaire ont bien été obligés de reconnaître les faits. La vidéo de cette messe le prouve. Lors de cet office pascal, pendant près de 4 heures, le port du masque n'a pas été respecté, ni la distanciation physique, sans parler du nombre de personnes réunies, pour la plupart âgées et vulnérables. Les policiers ont également entendu l'évêque auxiliaire de Paris en tant que témoin, pour s'assurer que le diocèse n'était pas partie prenante. D'après nos informations, les deux ecclésiastiques de la paroisse de Saint-Eugène-Sainte-Cécile, qui encourt tout de même un an de prison et 15 000 euros d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui, n'ont affiché aucun remords face aux enquêteurs. Il faut dire que le curé n'en est pas à son coup d'essai. Les policiers étaient déjà intervenus à deux reprises dans cette église l'an dernier pour mettre un terme à des messes clandestines. C'était en plein confinement et tout rassemblement, même pour exercer son culte, était alors interdit.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Un anniversaire, 200 ans.
Oui, bon anniversaire. Charles Baudelaire, né le 9 avril 1821. Alors, poète maudit à son époque, il est aujourd'hui révéré, même si ceux qui le connaissent bien, comme Jean Tellet, auteur du livre Crénom Baudelaire, interrogé par Nicolas Carreau, donc même si ceux qui le connaissent bien savent que la personnalité de Baudelaire est controversée.
Il faut dire qu'il ne gagne pas forcément à être connu. Baudelaire était un sale type, on peut le dire, détestable, odieux, misogyne. Et d'ailleurs, il aimait qu'on ne l'aime pas.
Il disait par exemple une phrase que j'aime bien, c'est « Avec mon talent désagréable, je voudrais mettre l'humanité tout entière contre moi. Je vois là une jouissance qui me consolerait de tout. » Et lui qui détestait tout le monde, il se détestait lui aussi. Il disait « Mécontent de tous » et mécontent de moi.
L'époque le lui a bien rendu. Sur les 100 poèmes des Fleurs du Mal, 6 ont été interdits par la censure pendant 92 ans. C'est que Baudelaire ne s'occupait pas de morale. Il cherchait le beau dans le spleen, la mélancolie de sa propre vie. Et c'est cette tristesse magnifique qui faisait son talent. Jean Tellet.
On finit par le trouver touchant, émouvant, avoir de l'empathie pour Baudelaire, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un type très malheureux qui a eu un chagrin d'enfance dont il s'est jamais remis. C'est aussi simple que ça, la vie de Baudelaire.
Reste son œuvre. Pour l'occasion, Calman Levy réédite Les Fleurs du Mal et les éditions Quarto proposent la plupart de ses textes dans un beau volume de 1900 pages.
Nicolas Carreau, qui n'est pas un sale type et que l'on retrouve tous les dimanches à 15h sur Europe 1 pour son émission La Voix est livre.
Et puis tiens, voici une collection de livres qui fonctionne plutôt bien également au cinéma.
Vous avez reconnu le générique des films Astérix.
Évidemment.
Le prochain, intitulé L'Empire du Milieu, vient de dévoiler son casting. Guillaume Canet en Astérix, oui. Gilles Lelouch sera Obélix. On pourrait d'ailleurs jouer aux devinettes pour la suite si je vous dis Marion Cotillard.
Falbala ?
Non, ça c'est Angèle. Marion Cotillard, ce sera Cléopâtre. Alors plus facile peut-être, Philippe Catherine.
Ah, si c'est facile, c'est Assurance Tourix.
Oui, le barbe. Pierre Richard sera druide, Panoramix.
Ah bah oui.
Forcément, ça fonctionne. On verra aussi Vincent Cassel, Jérôme Commandeur, Angèle, donc Audrey Lamy, Manu Payet et Zlatan Ibrahimovic. Ça, c'est pour vous, Mathieu. Zlatan Ibrahimovic en centurion romain.
Ah, donc on devrait avoir un Zlatan Ibrahimovic qui se fait battre, normalement.
ça n'arrive pas, c'est pas possible.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.